Quand on évoque le jansénisme, il y a un certain nombre de personnages auxquels on pense tout de suite. Pascal, Racine. Il y a également un lieu, c'est le monastère de Port-Royal, tel qu'il existe encore, enfin, les restes existent encore dans la vallée de Chevreuse. Mais en fait, aussi bien Pascal que Racine, que les Arnauds, que toutes les grandes figures du dit jansénisme rejettent ce nom. Ils rejettent ce nom tout simplement parce que c'est une insulte. Être janséniste, c'est être un sectateur, être quelqu'un qui suit Jansénius, et donc ce n'est pas être un bon catholique. Et donc, dès le départ, nous allons parler de quelque chose qui, d'une certaine façon, n'existe pas, puisque ceux qui sont marqués du sceau du jansénisme rejettent cette appellation. Et en histoire, ça pose toujours problème quand le nom qui s'est imposé est celui des vainqueurs. Et donc, c'est pour cela qu'il faut toujours avoir une grande prudence lorsque l'on évoque cette question du jansénisme. Jansénisme vient donc de Jansénius ou Janssen, qui est un évêque du début du XVIIe siècle et un évêque spécialiste, un universitaire, spécialiste de Saint-Augustin, qui a écrit une somme théologique tout à fait fondamentale sur l'œuvre de Saint-Augustin, ouvrage en latin, gros ouvrage en latin, qui s'intitule l'Augustinus. Pourquoi un ouvrage sur Saint-Augustin peut-il être contesté par les catholiques? Eh bien, tout simplement parce que dans le catholicisme, il y a des tendances, des mouvements, des sensibilités. Or, au moment de la Renaissance, s'est développé un courant animé par les jésuites, un courant qui accorde à l'homme une bien plus grande importance. Si l'on suit Saint-Augustin, ce qui est déterminant, c'est la faute, le péché originel qui a rendu l'homme totalement mauvais, si mauvais qu'il est incapable de distinguer le bien du mal. Et donc, si finalement il est sauvé, ce n'est pas par ses œuvres, puisqu'il est incapable de faire le bien, mais c'est par la prédestination, c'est par le choix, la grâce divine. C'est cette vision que les jésuites ont contestée au XVIe siècle, les jésuites accordant une part plus importante à la liberté humaine et donc aux œuvres. C'est un débat que l'on retrouve d'ailleurs à l'intérieur du protestantisme. Et c'est un débat qui a marqué Saint-Augustin, puisque Saint-Augustin lui-même a dû polémiquer contre son adversaire, Pélage. Donc, notre Jansénius réagit contre cette tendance, entre guillemets, on va dire humaniste, à l'intérieur du catholicisme. Et Jansénius redonne sa pleine puissance à l'augustinisme. En 1640, cette somme augustinienne, l'Augustinus, est publiée. Petit détail, Jansénius est mort 2 ans auparavant. C'est donc une publication posthume. Et donc, Jansénius, comme individu, ne peut pas être techniquement un hérétique. Parce que Rome donne toujours le temps à ceux qui sont condamnés pour se rétracter. Or, comme ce pauvre Jansénius est mort avant, techniquement, lui, au moins, ne peut pas être qualifié d'hérétique. Mais évidemment, ses idées peuvent l'être, et les jésuites vont tout de suite engager le combat contre les idées de Jansénius. Mais je dis toujours, au départ, le jansénisme est une histoire belge, puisque Jansénius est de l'université de Louvain. Comment cette histoire qui démarre en Belgique va-t-elle finalement surtout s'épanouir en France? Eh bien, tout simplement parce que Jansénius est très ami avec un abbé qui s'appelle du Verger de Orane, abbé de Saint-Cyran, et que c'est ensemble qu'ils ont au départ travaillé sur Saint-Augustin et sur tout un ensemble de sujets. Saint-Cyran, c'est un peu dans la France de ce début du XVIIe siècle, le successeur de Bérulle. Donc c'est parmi le monde des dévots un personnage excessivement important. Mais Saint-Cyran, ce n'est pas exactement la même chose que Jansénus, parce que Jansénus est un universitaire, un théologien, alors que Saint-Cyran est un pasteur et quelqu'un qui fait de la direction de conscience. Et donc déjà, même s'ils sont tous les deux augustiniens, je serais tentée de dire que l'on a déjà deux jansénismes à partir du moment où on a deux personnes qui relèvent de cette catégorie. Et puis, il se trouve que Saint-Cyran lui-même est directeur de conscience d'un certain nombre de religieuses qui se trouvent dans le couvent de Port-Royal. Donc, vous voyez, on est passé de l'université au couvent, et on va également passer des couvents au salon, parce que Saint-Cyran et sa direction de conscience ont un immense succès parmi l'élite dévote du début du XVIIe siècle. Et puis, parmi ces religieuses de Port-Royal, vous avez toute une série de religieuses, puis d'abbesses, qui sont de la famille Arnaud. Et avec les Arnaud, nous entrons dans le monde de la justice et de la magistrature. Donc, progressivement, cet enseignement universitaire a gagné des espaces beaucoup plus publics que strictement les premiers lecteurs de l'Augustinus, qui ne pouvaient être que des savants et des érudits. Pourquoi ce débat théologique, qui est, il faut y insister, qui est intercatholique? Les jansénistes, enfin les prétendus jansénistes, ne sortent jamais de l'Église. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de schisme. Pour eux, ils sont les véritables catholiques, les défenseurs de Saint-Augustin, les défenseurs de la vérité, les amis de la vérité. C'est le nom qu'ils utilisent pour se distinguer. Pourquoi ce phénomène va-t-il prendre une ampleur tout à fait étonnante pour une querelle théologique d'un niveau tout de même, au départ au moins, très érudit et donc très limité? Eh bien, parce que à ces questions théologiques, il faut immédiatement joindre des questions politiques. Et dès le départ, ce qui fait le jansénisme, c'est une théologie, mais c'est aussi une persécution. Pourquoi le pouvoir politique va-t-il persécuter ces catholiques augustiniens? Eh bien, parce que, pour Richelieu, ils font partie du clan des dévots, et les dévots contestent sa politique. La politique de Richelieu est une politique qui met en avant la raison d'État, et cette raison d'État peut le conduire à des alliances politiques avec les protestants, un peu comme François Ier s'était allié avec les Turcs. Donc il y a chez ces dévots contestation de la politique de Richelieu, et c'est évidemment ce qu'il ne veut pas pardonner. Jansénus, l'auteur de l'Augustinus, a aussi publié un pamphlet qui s'appelle le Mars Gallicus, et ce pamphlet est une critique très violente de la monarchie française qui s'allie dans la guerre de 30 ans avec les protestants contre les Espagnols catholiques. catholique. Et Saint-Cyran est arrêté en 1638 pour des raisons qui sont avant tout des raisons politiques. Donc ce jansénisme qui n'existe pas et qui de toute façon n'existe pas encore puisque la publication de l'augustinisme est posthume, eh bien ce jansénisme a déjà un martyr, déjà une victime dans la personne de Saint-Cyran. Les dévots, à propos de la raison d'État, parlent de raison d'enfer. Et toute la question est de savoir si on met en avant les intérêts catholiques ou si on met en avant les intérêts de l'État. Même si, évidemment, Richelieu demeure tout à fait catholique, c'est quand même la moindre des choses pour un cardinal. Donc, une première persécution sous Richelieu. Ça ne s'arrange pas sous Mazarin parce que les frondeurs qui s'opposent à Mazarin sont, comme par hasard, des amis de ces prétendus jansénistes. Et donc Mazarin apprend à son protégé, le jeune Louis XIV, que ces jansénistes sont des agités, des agitateurs et des frondeurs. Donc, lorsque Louis XIV arrive au pouvoir, il est a priori hostile, pour des raisons politiques, à cette mouvance janséniste. Et il dit très vite, ces jansénistes sont des républicains. Bien entendu, il ne faut pas l'entendre au sens de la République telle qu'on l'a connue par la suite, mais ça signifie ce sont de mauvais sujets. Ce sont des contestataires de la monarchie et surtout de la monarchie absolue que Louis XIV, évidemment, essaie de mettre en place. Nous avons donc ce courant d'une très grande intensité, ces catholiques augustiniens qui se trouvent en opposition aux jésuites et donc en opposition à Rome, mais pas tout le temps. Des découvertes de mon travail, c'est que finalement, l'opposition aux jansénistes est beaucoup plus forte de la part de l'État, de la monarchie française, que de Rome, même si évidemment il y a tout un certain nombre de papes qui vont condamner le jansénisme. Louis XIV est donc a priori hostile aux jansénistes. Le problème, c'est que durant son règne, Louis XIV va changer de politique en matière religieuse. C'est quelque chose de très curieux. Il commence par la persécution des jansénistes et il termine par la persécution des jansénistes. Mais au milieu, il y a une phase de 10 ans de 1669 à 1679, 1680, que l'on appelle la paix de l'Église, qui a été négociée par le pape Clément IX, et qui est une période pendant laquelle on dit, bon, finalement, toutes ces querelles, on fait le silence, on les oublie, et tous les catholiques se rassemblent. Pourquoi Louis XIV a-t-il accepté cette politique? Probablement parce qu'il est en train de lutter contre les protestants. C'est juste la période qui précède la révocation de l'édit de Nantes. Et donc, il a besoin d'une unité religieuse du monde catholique avec lui et derrière lui. Et puis, il estime probablement que l'édit de Nantes a en réalité permis de réduire les protestants. Ils sont moins nombreux, les plus importants d'entre eux se sont convertis. Donc au fond, la pacification par l'édit de Nantes a permis d'avoir raison des protestants. Enfin, c'est ce que pense Louis XIV, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en apparence, c'est ce que l'on croit en 1685. On a vraiment l'impression qu'il n'y a plus de protestants. Et donc, j'émets l'hypothèse qu'il a essayé de faire la même chose avec les jansénistes. On fait la paix et sans doute espère-t-il que progressivement, le monde janséniste va disparaître, va se dissoudre dans le monde catholique, puisque de toute façon, les jansénistes s'estiment catholiques. Par malheur pour Louis XIV, c'est exactement le contraire qui se produit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on ne persécute plus les jansénistes, ils s'épanouissent. À partir du moment où les jansénistes ne sont plus persécutés, toute une série de personnages à la cour même, sans se réclamer du jansénisme, puisque ça n'existe pas, mais en fait, on se découvre une sensibilité anti-jésuite et augustinienne. C'est le cas, par exemple, de quelqu'un comme Madame de Sévigné, qui a en fait une grande sympathie à l'égard de Port-Royal. Donc, Louis XIV a raté son coup et il va revenir à une politique de persécution à la fin du règne. La période de la paix de l'Église est véritablement une période où la sympathie à l'égard des jansénistes, hein, je mets des guillemets mentalement au terme janséniste, se développe dans l'ensemble de la société. Puisqu'ils sont bien vus à la cour, puisqu'on ne les persécute plus, eh bien tous ceux qui ont de la sympathie pour eux n'hésitent pas à la manifester. Pourquoi de la sympathie de la part de gens de cour pour un mouvement qui est tout de même un mouvement très sévère et très rigoureux. Là, il faut, je crois, remettre la question dans son contexte. Les jansénistes sont certes des gens rigoureux, austères, mais ils ne sont pas les seuls. Le catholicisme du XVIIe siècle est un catholicisme très, très sévère. Et si on est plus attiré par cette sévérité que par la relative, je dis bien la très relative indulgence des jésuites, c'est aussi parce qu'on se méfie d'un courant jésuite qui est trop impliqué dans le monde et qui donc devient est perçu comme trop laxiste. Et en réalité, cela renvoie à deux tendances qui existent toujours dans l'histoire de l'Église. Ceux qui ne pensent qu'à la fin des temps, et qui donc vivent toute cette vie sur terre comme une parenthèse, et donc on a la référence à l'Église des premiers temps, celle des apôtres et des martyrs, qui est déterminante pour les jansénistes. Et puis une autre tendance qui est de s'inscrire dans le temps et qui est d'accepter l'évolution. Et les jésuites, par exemple, pensent qu'on ne peut pas demander autant à un catholique du XVIIe siècle qu'à un catholique du temps, des temps héroïques du christianisme. Donc, autrement dit, au XVIIe siècle, on ne vous demande pas d'aller vous faire manger par les lions, c'est terminé. Et donc les jésuites acceptent cette évolution et essaient d'en tenir compte. Et le grand paradoxe, eh bien, c'est que finalement, c'est ceux qui acceptent d'aller être mangés par les lions, symboliquement évidemment, qui ont le plus de succès parce qu'ils paraissent les plus authentiques, les plus sincères et les plus convaincants. Comme en même temps, dans cette période de paix de l'Église, il publie des œuvres fondamentales, la grammaire, la logique, toutes les œuvres d'Arnaud et de Nicole, et puis surtout, en 1670, les pensées de Pascal, qui sont la reprise d'un manuscrit inachevé, puisque Pascal est évidemment mort très jeune. Et ces pensées, ce sont les extraits d'une apologie pour la religion chrétienne. Et ces pensées ont été faites, enfin, remodelées par l'ensemble de l'équipe de Port-Royal, de ce qu'on appelle le monde de Port-Royal. Et donc là, nous avons effectivement un rayonnement intellectuel pastorale, théologique de cet univers de Port-Royal. Mais malgré tout, les jésuites sont toujours les premiers adversaires de cette tendance janséniste augustinienne, et nous allons évidemment les retrouver dans l'entourage de Louis XIV au moment où Louis XIV va changer sa politique à l'égard des jansénistes. L'appel de l'Église s'achève donc à peu près au moment où Louis XIV, ayant révoqué l'édit de Nantes, pense avoir rassemblé derrière lui toutes les sensibilités religieuses du catholicisme. C'est un roi, une loi, une foi, et on peut penser à cette époque que Louis XIV a réussi. Malheureusement, par rapport à Louis XIV, les jansénistes existent toujours. Ils applaudissent comme tout le monde à la révocation de l'édit de Nantes, mais ils vont progressivement prendre des distances avec un certain nombre de persécutions. Non pas à ce moment-là par esprit de tolérance, mais parce qu'ils considèrent que, par exemple, forcer les protestants à communier, c'est-à-dire qu'on entraînait les protestants avec deux dragons et qu'on leur enfournait l'hostie dans la bouche. Et alors ça, c'est pour les jansénistes, c'est une profanation, c'est un blasphème, et c'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Donc, ils sont parmi les premiers à critiquer, sinon la révocation de l'édit de Nantes, du moins certains visages de la persécution. Et puis, surtout, Louis XIV, qui, dans les années 1680, et notamment en 1682, s'est voulu très soucieux de son indépendance à l'égard de Rome, très gallican, c'est-à-dire très défenseur de l'autonomie de l'Église catholique gallicane, c'est-à-dire de l'Église de France. Dans la fin de son règne, au début du XVIIIe siècle, Louis XIV change là aussi de politique et va évoluer vers un très grand rapprochement avec Rome, au point de solliciter de Rome la condamnation définitive du jansénisme. C'est cette condamnation qui intervient en 1713 dans la bulle Unigenitus. La bulle Unigenitus condamne sans une proposition qui vienne d'un ouvrage taxé de jansénisme, qui est un ouvrage qui a été fait par le nouveau chef du mouvement janséniste, Pasquier Quesnel. Le malheur, c'est que Rome a voulu trop bien faire. C'est-à-dire que condamnant des propositions de Quesnel, un certain nombre d'entre elles sont tout de même des propositions très augustiniennes. Et donc, évidemment, beaucoup vont dire, mais condamner Quesnel, c'est une chose, condamner Saint-Augustin, condamner des éléments qui sont dans Saint-Augustin, c'en est une autre. Et puis, parmi les propositions condamnées, il y a celle qui définit la liberté du roi en tant que prince temporel par rapport à Rome. Donc, en fait, qui condamne quelque chose qui a toujours été admis en France, à savoir que le pape a une autorité spirituelle, incontestable, mais que sur le plan temporel, le roi est indépendant. Et donc, l'opposition janséniste va rencontrer et plus ou moins se confondre à partir de 1713 avec l'opposition que l'on appelle l'opposition gallicane. Et l'opposition gallicane est très puissante dans les milieux de la magistrature. Donc, cette bulle Unigenitus, qui était censée mettre fin définitivement au jansénisme, en réalité, lui redonne une espèce de nouvelle vie. Cette nouvelle vie, Louis XIV réussit à la limiter, à la contraindre, éventuellement à la persécuter, mais quand il disparaît en 1715, le régent prend le contre-pied de tout ce qu'il a fait, et donc la première période de la régence est une période où le pouvoir politique est très favorable aux jansénistes et où le chef du conseil de conscience est le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, qui est un des grands opposants à la bulle Unigenitus. Nous arrivons donc au XVIIIe siècle, et le XVIIIe siècle a été un siècle beaucoup plus religieux que ce que l'on avait l'habitude de penser. Un historien américain a dit que si on faisait la somme des ouvrages publiés au XVIIIe siècle, eh bien, il y avait beaucoup plus d'ouvrages concernant la bulle Unigenitus que d'ouvrages concernant la pensée des Lumières. Ce qui ne signifie pas, et ça ne signifie pas évidemment que l'un égale l'autre, mais ça donne tout de même une petite idée de l'importance des polémiques religieuses au XVIIIe siècle. Que vont devenir les jansénistes au XVIIIe siècle? Le mouvement change, il est toujours clandestin, il est toujours condamné au silence, mais en réalité, il va de plus en plus se montrer et de moins en moins être silencieux. Les jansénistes du XVIIIe siècle sont rapidement écartés de l'Église. Écartés de l'Église parce que, dorénavant, pour être dans l'Église, il faut accepter le formulaire d'Alexandre VII qui date du XVIIe siècle, mais surtout il faut accepter la bulle Unigenitus de 1713. Et tous ceux qui n'acceptent pas ne peuvent pas rentrer dans l'Église. Donc progressivement, nous avons de moins en moins de clercs jansénistes. Le dernier évêque janséniste meurt en 1754. Les curés jansénistes vont être systématiquement persécutés. Les monastères dans lesquels le jansénisme est important de même. Et donc petit à petit, le clergé est repris en main. Alors pas totalement, parce que pour être persécuté, il faut s'être manifesté. Tous ceux qui sont de tendance janséniste mais qui restent discrets peuvent évidemment continuer à exercer. Mais paradoxalement, en s'écartant du monde clérical, les jansénistes vont se retrouver alors énormément parmi les avocats, donc dans le monde de la justice, chez les magistrats et chez les simples laïcs. Et ça, c'est une des choses importantes dès l'origine chez les jansénistes, c'est qu'ils pensent que chaque chrétien doit être un militant. Chaque chrétien est responsable de sa conscience et également responsable de ses actes. Et donc, on a une force d'attraction cet appel à la conscience et cet appel au militantisme chrétien qui fait que nous allons retrouver des jansénistes dans tous les niveaux sociaux et notamment énormément de femmes. Parce que comme les protestants, même si les jansénistes sont des catholiques, ils ont en commun avec les protestants d'exiger que chacun lise la Bible, même les femmes, Donc que la Bible soit évidemment traduite en français. Et donc là, c'est un mouvement très important qui se développe au XVIIIe siècle. Les jansénistes du XVIIIe siècle, puisqu'ils sont de plus en plus laïcs ou de plus en plus clercs, mais clercs d'un bas niveau, hein, puisqu'ils n'ont plus, d'évêques, eh bien, les jansénistes du XVIIIe siècle vont développer l'idée d'une église qui n'est pas une hiérarchie, qui n'est même pas une aristocratie, mais d'une église qui est une communauté de croyants au sein de laquelle clercs et laïcs doivent participer. C'est un peu du Vatican II, quelques siècles avant la lettre, un peu, hein, il faut se méfier des comparaisons. Et là, il y a dans la conception de l'Église, dans l'ecclésiologie qui se met en place, quelque chose de tout à fait intéressant et qui explique la relative attraction de ce mouvement religieux. D'autant plus intéressant que ces conceptions ecclésiologiques, ces conceptions théologiques, bon, qui se retrouvent dans le gallicanisme, qui se retrouvent dans une théorie qui existait bien avant, qu'on appelle le conciliarisme, c'est-à-dire finalement le concile a plus d'autorité que le pape. L'Église n'est pas une monarchie absolue, le concile est là et il est supérieur au pape. Eh bien, toutes ces idées, les jansénistes vont les faire passer de l'Église à l'État. Et donc, au XVIIIe siècle, vous avez une pensée politique qui passe par le jansénisme et qui est une pensée politique relativement, je dirais, progressiste, entre guillemets, même par rapport à la pensée politique des philosophes. Si nous prenons la période de la Régence, par exemple, il y a un théologien qui s'appelle Le Gros et qui dit, eh bien, l'Église est une démocratie, la démocratie doit régner dans l'Église, et pourquoi ne régnerait-elle pas également dans l'État ? Donc nous avons, au début du XVIIIe siècle, des théologiens qui évoquent la notion de souveraineté populaire et de démocratie. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils veulent renverser la monarchie du jour au lendemain, mais ils réfléchissent en ces termes. Et évidemment, c'est tout à fait intéressant parce que dans les années 30, 1730, d'abord, la majorité des grandes œuvres philosophiques n'ont pas encore été publiées. Et même le mouvement philosophique est un mouvement, bon, à part Rousseau, mais c'est quand même beaucoup plus tard, est un mouvement qui est loin d'être aussi radical sur le plan politique. Il n'y a pas cependant d'unité politique à l'intérieur de cette mouvance janséniste. Sous la Régence, il y a donc cette émergence d'une pensée plus ou moins démocratique, mais nous rencontrons également un jansénisme parlementaire qui est un jansénisme beaucoup plus aristocratique, qui lutte certes contre la tentation absolue de la monarchie, mais pour avoir une monarchie modérée, tempérée par le Parlement. Et puis nous rencontrons aussi des jansénistes qui sont les admirateurs de l'empereur Joseph II, en particulier parce que Joseph II n'aime pas tellement les jésuites, et donc on pourrait dire des jansénistes qui sont favorables au despotisme éclairé. Je combats toujours l'idée d'un parti janséniste, tout simplement parce qu'il y a une telle diversité d'opinions politiques parmi les jansénistes que le mot parti me semble totalement anachronique. c'est un petit peu la même chose au moment de la Révolution française. On a accusé les jansénistes, avec les protestants, les juifs, les francs-maçons, d'être les auteurs d'un complot qui aurait déclenché la Révolution française. C'est évidemment tout à fait contestable. Et au moment de la Révolution française, une nouvelle fois, sur le plan politique, les jansénistes se divisent. Deux tiers des jansénistes environ rejoignent la Révolution. C'est le cas notamment du journal qui exprime la sensibilité janséniste et qui s'appelle « Les Nouvelles Ecclésiastiques ». En 1789-90, les Nouvelles Ecclésiastiques vont progressivement accepter les réformes de l'Assemblée constituante, et les clercs jansénistes qui suivent cette tendance vont être parmi le clergé jureur et constitutionnel. Mais en même temps, on voit un magistrat janséniste, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Robert de Saint-Vincent, qui a été un opposant très virulent à la monarchie absolue, mais qui, dès 1789, est hostile à la Révolution et qui rejoint le comte d'Artois et les contre-révolutionnaires les plus actifs. Donc là encore, on ne peut pas parler d'un parti quand il y a tellement de tendances différentes à l'intérieur du jansénisme. J'aime même parler des jansénismes. Ceci dit, au siècle des Lumières, il y a eu un phénomène tout de même qu'il faut mentionner, c'est que dans un certain nombre de combats, les jansénistes et les philosophes se sont rejoints, se sont rencontrés. Alors il ne s'agit pas du tout d'une fusion, mais il se trouve qu'un certain nombre de combats ont été des combats communs. C'est le combat contre les jésuites. Voltaire et d'Alembert s'appuient sur les raisonnements de Lepage et d'un certain nombre de jansénistes. Et d'ailleurs, ils se demandent lesquels ont été les meilleurs contre les jésuites. Les philosophes disent « c'est nous ». Et les jansénistes disent « mais non, c'est nous, vous avez été comme la mouche du coche », réplique-t-il aux philosophes. Enfin, ils ont travaillé dans le même sens. Ils ont lutté ensemble, alors sauf Voltaire, mais ils ont lutté ensemble contre le Parlement Maupoux et cette réforme de la justice de la fin du règne de Louis XV. Et puis, de façon plus agréable, ils ont lutté ensemble pour la tolérance civile à l'égard des protestants, qui est finalement accordé par Louis XVI en novembre 1787. Donc on a bien un mouvement pluriel, divers, qui est à la fois toujours le même sur le plan de la théologie, mais qui ne cesse pas d'évoluer sur le plan politique. Pourquoi ce jansénisme a-t-il cette possibilité de se développer en dépit de la persécution et de renaître quasiment en permanence, enfin au moins sur ces deux siècles du XVIIe, XVIIIe et je dirais jusqu'aux années 1840. Après, il continue à exister, mais de façon tout de même beaucoup plus résiduelle. Pourquoi cette tentation janséniste? Le premier point qui peut l'expliquer, c'est sans doute le fait que les jansénistes font appel à des notions de résistance et de conscience. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve des abbesses de Port-Royal à l'abbé Grégoire au sein de la Convention. Au nom de leur conscience, ils sont capables de s'opposer à tout, à tous et dans toutes les circonstances. Donc ça, c'est un point qui est sans doute à mettre à leur crédit, à leur capacité de s'exprimer, enfin, d'exprimer leurs convictions et de s'engager sans peur des risques ni des conséquences. Et comme on l'a déjà vu, la persécution en réalité est un facteur de réussite. On n'est pas le commun des mortels ne comprend pas très bien le débat sur la grâce. Est-elle efficace, est-elle suffisante, comme disent les jésuites, ça passe au-dessus de la tête d'un certain nombre de catholiques, mais on voit des gens persécutés, résister, et ça, c'est un facteur de sympathie certain. Facteur qui, de mon point de vue, a été accentué par la maladresse de Louis XIV à la fin de son règne. Il veut absolument réduire le foyer de résistance que représentent les dernières religieuses de Port-Royal dans leur monastère. C'est un petit peu comme si dans l'esprit de Louis XIV, je ne suis pas évidemment dans l'esprit de Louis XIV, mais c'est un petit peu tout de même comme si Versailles même était contesté par ce lieu de résistance, par cette poignée de religieuses qui à l'époque sont toutes plus âgées et malades les unes que les autres, et donc il n'en veut plus et il décide alors dans un premier temps de les enlever, c'est-à-dire de les faire enlever par la police et disperser dans des couvents où elles seront isolées et privées de sacrements et plutôt maltraitées, et en 1711, pour qu'il n'y ait pas un pèlerinage qui se constitue sur les lieux du monastère, parce qu'il a détruit le Palatinat, enfin fait détruire le Palatinat, et parce qu'il a aussi détruit les temples protestants, il décide de détruire le monastère. Détruire le monastère, ça signifie évidemment enlever pierre sur pierre, mais ça signifie aussi détruire la nécropole. Détruire le cimetière. Bien entendu, comme le cimetière existe depuis aussi longtemps que le monastère, il n'y a pas que des cadavres de jansénistes dans ce cimetière, loin de là. Et donc, c'est un travail énorme. Quand il y a quelques familles dont on sait que leurs ancêtres étaient là, des grandes familles, on leur laisse le temps de déterrer et transporter, mais pour la plupart des morts enterrés là, ce sont des ouvriers qui viennent et qui donc enlèvent les morts, apparemment les mettent dans des charrettes et ne font pas un travail très respectueux. Et donc, cette profanation des morts, cette profanation du cimetière, engendre une révolte. On est quand même à la fin du règne de Louis XIV. Hein. On est quand même dans un moment où il y a une certaine lassitude à l'égard du grand roi, qui n'est plus vraiment le roi vainqueur, parce qu'on est quand même aussi dans la guerre de succession d'Espagne, qui est une guerre très, très violente. Et donc, cette persécution des morts, c'est un véritable scandale, y compris chez des gens qui n'ont rien de jansénistes. Et là, vous avez des descriptions on décrit en quelque sorte le viol d'une sépulture, et en fait, on parle un peu d'un viol de ces pauvres religieuses dont il ne reste que quelques éléments et qui sont profanées dans ces circonstances. Donc là, le roi, l'Église apparaissent comme irrespectueux par rapport aux morts. Et je crois que c'est quelque chose de très important parce que l'Église, et notamment l'Église catholique, repose en grande partie sur l'union des vivants et des morts. On a vu au Moyen Âge, l'invention du purgatoire pour favoriser ces liens entre les vivants et les morts. Le catholicisme prie pour les morts et il y a possibilité d'obtenir le salut ou moins d'années de purgatoire, les fameuses indulgences, pour les défunts. Et alors qu'évidemment, la réforme, le protestantisme, c'est le contraire, c'est la rupture entre les vivants et les morts, et c'est sans doute un des points de différence les plus importants entre les deux religions chrétiennes. Et donc là, cet acte de Louis XIV est perçu véritablement comme un scandale, comme quelque chose d'horrible qui n'aurait jamais dû être fait, et donc renforce cette opposition janséniste, puisqu'elle a été victime d'une espèce de crime impardonnable. Or, dans les années 1750, un second phénomène intervient à peu près dans le même sens. D'abord, dans les années 1750, c'est le moment où les jansénistes écrivent beaucoup sur le premier Port-Royal. Il y a toute une série de mémoires qui sont publiées et qui racontent la vie des religieuses, la vie des grands ancêtres de Port-Royal. Et en même temps, l'archevêque de Paris, qui est un certain Christophe de Beaumont, l'archevêque de Paris veut, à son tour, mettre fin au jansénisme. Il veut mettre fin au jansénisme parce qu'il a l'impression, qui n'est pas tout à fait fausse, que le mouvement commence à décliner. Il y a eu la grande crise convulsionnaire, il y a maintenant ce rattachement aux ancêtres, mais enfin, c'est aussi parce que le présent est quand même moins glorieux que la grande époque de Port-Royal. Et donc, pour en finir avec les jansénistes, Christophe de Beaumont remet en vigueur quelque chose qui existe dans le catholicisme, qui est le refus de sacrement. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec la bulle unigénitus, le clergé ne doit pas distribuer les sacrements. Tous les sacrements, que ce soit... Alors le baptême, c'est évidemment si les parents ne sont pas d'accord avec la bulle, c'est pas le nourrisson, mais aussi bien la communion, le mariage, enfin tous les sacrements qui marquent la vie chrétienne. Mais c'est surtout au moment de la mort que cela va faire scandale. Donc Christophe de Beaumont, la crise la plus grave, c'est de 1749 à 1754, exige, pour donner le viatique et donc pour enterrer en terre chrétienne, exige un billet de confession qui prouve que l'on a bien obtenu l'absolution par un prêtre qui est un prêtre, entre guillemets, bulliste. Donc, il lui-même accepte la bulle unigénitus. Et donc, j'ai envie de dire, ça recommence. Alors, ce n'est pas la profanation d'un cimetière, mais c'est des tas de gens qui étaient connus dans leur quartier, dans leur ville, dans leur village, comme de parfaits catholiques. Les jansénistes s'investissent dans les œuvres de charité, ils sont dans toute la gestion des hôpitaux, ils multiplient les écoles populaires, hein, de tradition des petites écoles de Port-Royal, mais à un niveau plus simple et plus populaire. Et donc, le public ne comprend pas pourquoi ces gens-là sont traités comme les protestants, comme les juifs, comme les comédiens ou comme les athées, et pourquoi on refuse de leur distribuer les derniers sacrements, et pourquoi on les enterre en dehors de la terre consacrée. Et alors, le peuple croit à ce moment-là que si on n'est pas enterré en terre consacrée, on est immédiatement envoyé en enfer. Donc il y a toute une solidarité qui se déclenche. Les chroniqueurs disent « Paris s'est réveillé janséniste » et c'est presque vrai. C'est-à-dire que même les gens qui ne sont absolument pas mobilisés par cette querelle janséniste se trouvent du côté des jansénistes. La mort est devenue une affaire privée et on ne comprend pas qu'au lieu de réconforter les agonisants, les clercs arrivent dans la chambre des mourants, bousculent tout le monde et se mettent à parler de théologie. C'est un scandale énorme et c'est à nouveau une persécution des mourants et une persécution des morts, puisqu'on ne leur donne pas de place en terre consacrée. Et je crois que là, d'abord, dans le phénomène de déchristianisation, ce refus de sacrement, cette période de refus de sacrement est un élément très important. Et puis également, sur le plan politique, le Parlement va prendre parti pour ceux auxquels on refuse les sacrements, en disant que refuser les sacrements, c'est quand il y a un scandale public. Là, il n'y a pas de scandale public. C'est une histoire de bulle de 1713. Tout ça paraît très loin. Et d'ailleurs, même le pape Benoît XIV, même le pape finit par apaiser les choses en disant, bon, s'il n'y a pas de scandale public, il faut donner les sacrements, sans trop interpeller les gens, surtout les agonisants. Mais donc, on a à nouveau cette persécution des morts. Et je crois que là, c'est un phénomène de sensibilité, c'est un phénomène culturel qui explique véritablement la longue vie des jansénistes. Et ça a été perçu d'une certaine façon par Chateaubriand, qui, lorsqu'il voit les tombeaux des rois à Saint-Denis profanés sous la Révolution, accuse Louis XIV. Il dit « c'est de votre faute parce que vous avez, en persécutant les religieuses et en détruisant le cimetière de Port-Royal, vous avez donné le mauvais exemple ». Donc il y a une espèce de thème de la persécution des morts qui rebondit comme ça de 1709 à la Révolution. Et je crois que c'est très important dans la déchristianisation, c'est très important dans la contestation de l'Église, hein, qui n'est pas nécessairement la même chose. On peut très bien contester l'Église, mais rester chrétien de par ses sentiments et sa croyance. Et c'est quelque chose qui n'a pas été vu, me semble-t-il, enfin, auquel on n'a très longtemps pas donné assez d'importance. Dans les ouvrages sur le XVIIIe siècle, on parle de querelle des billets de confession. Alors, c'est vrai, puisque techniquement, il fallait un billet de confession d'un prêtre respectant la bulle. Mais je pense que refus de sacrement, c'est beaucoup plus fort que billet de confession. Et ça montre bien le début d'un détachement à l'égard d'une Église qui est là pour rassurer, qui est là pour bien gérer les liens entre les vivants et les morts, et qui apparaît tout d'un coup comme ne remplissant plus cette fonction et au contraire contribuant à persécuter les morts. Ça se poursuit au XIXe siècle. L'abbé Grégoire, il faut l'intervention du roi Louis-Philippe et de la reine pour qu'il soit enterré dans des conditions décentes. On essaie à nouveau de pratiquer le refus de sacrement parce qu'il refuse de condamner ce qu'il a fait, et notamment qu'il ait été un clerc constitutionnel. Je crois que là, c'est quelque chose d'excessivement important et qui, à la limite, traverse le XIXe siècle et s'arrête, me semble-t-il, mais là, il faudrait voir des spécialistes de la période contemporaine, je pense que ça s'arrête à la guerre de 14 et notamment en 1918, parce que là, à nouveau, l'Église réconciliée avec la République intervient dans la gestion des morts qui ont été, je pense à l'ossuaire de Verdun, qui ont été évidemment tellement massifs dans cette terrible guerre.